Bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en fin d'année. C'est le dernier culte de 2019, comme le temps passe. C'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée. Et vous savez ce qu'on dit, hein. Quand on pense à l'année écoulée et qu'on regarde derrière soi, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un mur quand on regarde derrière soi. Vous ne connaissez pas la blague ? Et maintenant, vous la connaissez. Eh bien, moi, quand je pense à l'année écoulée et à ce qui s'est passé dans l'Église et qu'on regarde en arrière, eh bien, je ne vois pas un mur. Mais je vois les prémices de ce que Dieu veut accomplir dans son Église et par son Église. Et je trouve que ça permet plutôt de regarder en avant, de sentir, de pressentir tout ce que Dieu met devant nous. C'est un peu comme la terre promise que le Seigneur mettait devant son peuple. Il y a toute une terre promise dans laquelle il nous demande de rentrer. Toute une terre promise de bénédiction, de combat à mener aussi, mais de victoire à remporter par sa puissance. Et ça, c'est encourageant. Ce qui est encourageant aussi, c'est de voir dans l'Église l'engagement. Il y en a plusieurs qui s'impliquent dans la prière. Il y en a plusieurs qui manifestent vraiment cette vraie communion fraternelle, le souci les uns pour les autres. Ce qui me réjouit aussi, c'est que certains réalisent qu'on passe d'une connaissance intellectuelle, de l'éducation, de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a dit que Dieu était, à une vraie connaissance personnelle, et qui n'est plus du tout intellectuelle, qui est vraiment spirituelle. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Il faut absolument continuer dans ce sens, chacun individuellement. Il faut être sensible au Saint-Esprit, comme je pense qu'on l'a été ce matin, à la grâce que le Seigneur répand tout autour de nous. Et puis, donc, par rapport à l'Église, on peut penser aussi au projet, à la nouvelle salle, à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Ça, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment le Seigneur qui travaille et qui conduit son Église. Et plus on se laissera conduire par le Saint-Esprit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif dans l'Église, plus on avancera et plus on sera cohérent. Mais, vous doutiez qu'il y avait un mais. Non ? Vous êtes surpris. Mais rien ne se fera si je ne parle pas plus fort, me dit Fabienne. Rien ne se fera si, c'est quoi à votre avis ? Quelles sont les conditions indispensables à la réalisation des plans de Dieu ? Pour chacun d'entre nous ou pour l'Assemblée collectivement ? Tout à fait, tout simplement. J'allais dire, est-ce que rien ne se fera si on n'a pas des finances conséquentes pour réaliser le projet ? Ce n'est pas une question d'argent. Rien ne se fera si on ne suit pas tous de très sérieuses et de très belles formations théologiques ? Ce n'est pas une question de formation intellectuelle. Rien ne se fera si on ne fait pas des efforts énormes et des actes de piété méritoires. Ce n'est pas une question d'effort et de mérite. Dans les derniers cultes, si vous vous rappelez un petit peu les cultes du mois précédent, eh bien, on a parlé de la fidélité, de la joie dans la souffrance, de ne pas être comme une terre sèche dans le désert, mais de se laisser tremper, imbibé par la pluie qui vient de Dieu, par la pluie du Saint-Esprit. J'ai parlé aussi de communion fraternelle. Et tout ça, c'est très juste. C'est très important. Et je pense que c'est ce que l'Église a besoin d'entendre et que c'est ce que l'Église a besoin de vivre. Et quand je dis l'Église, en réalité, l'Église, c'est la somme de chacun d'entre nous. C'est avant tout individuel. Mais il faut peut-être encore une chose. Je ne sais pas si ça évoque pour vous cette scène des évangiles où Jésus rencontre un jeune homme riche, c'est en Marc 10. Vous savez, celui qui avait respecté tous les commandements de la loi, qui voulait plaire à Dieu, qui était vraiment bien sous tous les rapports, et qui croyait qu'il devait en faire plus pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui répond, « Il te manque une chose. » Souvent, on réfléchit, on analyse, on essaye de comprendre, en tout cas moi. On pense qu'il faudrait faire ça, ça, et qu'on a compris et que ça devrait marcher comme ça. Et le Seigneur sourit en nous regardant faire, et puis il dit, il y a encore une petite chose. Et je pense que l'Église ne verra pas plus que chacun d'entre nous individuellement, pas plus que le peuple d'Israël devant la terre promise, eh bien on ne voit pas, on ne verra pas l'accomplissement des promesses et des plans de Dieu si on ne se comporte pas en disciple, si on n'est pas consacré à Dieu, si on n'est pas dédié à son service. C'est la consécration. Ce matin, je voudrais vous parler de consécration. Alors, qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est un grand mot, hein, presque un gros mot. C'est une notion théologique plus ou moins confuse pour la plupart d'entre nous. Mais je crois que derrière le mot, il y a une réalité profonde, spirituelle. La consécration, c'est avant tout une attitude. Alors, qu'une personne soit consacrée ou non, dépend de la nature de son expérience avec le Seigneur au moment de sa conversion, de son attitude, de son cœur envers Dieu. Si on pense que le fait d'être chrétien, le fait de dire partout qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu, c'est presque une faveur qu'on rend au Seigneur, ou que c'est quelque chose de méritoire, eh bien c'est même pas la peine de parler de consécration. Parce que c'est l'indicateur qu'on n'a pas vraiment conscience de ce que Jésus a accompli pour nous. C'est le fait que on est encore dans cette compréhension intellectuelle de la foi. Souvent on voit ça dans ce que j'appelle les secondes générations, vous savez, les enfants de chrétiens qui ont été élevés dans l'Église et qui connaissent toute la Bible, mais qui ne sont pas forcément convertis. C'est pas la peine non plus de parler de consécration à une personne qui pense que eh bien, elle seule, elle peut évangéliser, elle peut promouvoir le christianisme, elle est capable d'amener des personnes à Christ par lui-même, par son exemple, et qui pense que ses nombreuses qualités, ses efforts sont un service qu'il rend à Dieu. C'est pas ça la consécration. Parce que là, on ne part pas sur de bonnes bases. Peut-être un problème d'enseignement, c'est peut-être un problème de début, de bien démarrer dans la foi chrétienne. Mais quand on a cette attitude-là, il reste encore trop de moi, je. Il reste trop d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. On doit réaliser en fait que le Seigneur, à la croix, a manifesté une grâce et une miséricorde infinie. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est pour ça, en retour de ce qu'il a accompli pour nous, qu'on se consacre à lui. Par reconnaissance, parce qu'il a accompli ce que nous étions incapables de faire par nous-mêmes. Nous sauver, nous faire grâce de nos péchés, nous donner une nouvelle vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que la Bible nous parle de consécration du début à la fin, de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse. C'est que c'est certainement important. C'est certainement ce que Dieu nous demande. Alors, qu'est-ce que c'est que... Quelle est la base de la consécration? Eh bien, j'aimerais vous lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 15, où on nous dit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Je relis. L'amour de Christ nous presse, parce que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent en lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En fait, la base, le fondement, le démarrage, si vous voulez, de la consécration, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour pour Christ, parce qu'il a accompli pour nous. Cet amour nous presse. C'est une sorte de contrainte. C'est vraiment quelque chose qui nous pousse, à laquelle on ne peut pas résister. C'est une sorte de puissance contraignante dans l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui sont convertis vivent pour ce Christ qui est mort pour eux et qui est ressuscité, et avec lequel ils sont ressuscités. On vit pour le Seigneur parce qu'on y est contraint, pressé, obligé par l'amour du Seigneur. Quand on est amoureux, après, c'est strictement personnel, mais je suppose qu'on est beaucoup à avoir partagé cette expérience, mais quand on est amoureux, on a vraiment un sentiment d'attachement, parfois de dépendance, de besoin, presque d'esclavage envers l'autre. Eh bien, être chrétien, c'est pareil. On est dépendant du Seigneur, on est attaché au Seigneur, on est lié au Seigneur. Il n'y a aucune autre option, il n'y a pas d'autres possibilités. Il est mort pour nous, on se doit de vivre pour lui en retour. C'est tout ce qu'on peut lui offrir, c'est tout ce qu'il nous demande. Et cet amour, c'est la base de la consécration. On se consacre au Seigneur à cause de l'amour du Seigneur pour nous. Et on ne peut pas vivre une vie consacrée au Seigneur si on n'est pas touché par cet amour. On doit à la fois être touché par cet amour et à la fois le toucher, si vous voulez. C'est-à-dire que il faut qu'on expérimente l'amour du Seigneur dans notre vie, autour de nous, concrètement, qu'on le ressente, qu'on le vive. Et là, la consécration arrive toute seule. C'est spontané, c'est naturel, c'est la conséquence directe de l'expérience de l'amour et de la grâce du Christ. La consécration, ce n'est pas simplement notre reconnaissance ou notre gratitude qui s'exprime d'une manière totale, c'est aussi dans l'autre sens. Parce que le Seigneur a des droits sur nous. Et ça, on le lit dans 1 Corinthiens 6, au verset 19-20, où on nous dit: ne savez-vous pas, parenthèse, si le texte commence par ne savez-vous pas, c'est que c'est certainement une chose dont on n'a pas forcément conscience. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, parce que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. En fait, le Seigneur a donné sa vie pour nous. On le sait. Tout le monde le sait. Il est devenu la rançon, le prix payé pour nous racheter. Et on est ceux qui ont été rachetés au prix de sa vie. Puisqu'on a été racheté, on ne s'appartient plus. Nous ne nous appartenons plus. C'est un peu comme à l'époque, il y avait des esclaves, et ils pouvaient très bien être rachetés par un nouveau maître. Et parfois, les maîtres pouvaient même, dans un grand élan de générosité, lui rendre sa liberté, le racheter et le libérer. Mais imaginez un maître, à l'époque, qui accepterait de donner sa vie, qui accepterait de mourir pour racheter un esclave et faire de lui un homme libre. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça, c'est à cause de ce prix qu'il a payé, que nous ne nous appartenons plus. Que nous devons être prêts, même à perdre ce que, naturellement, humainement, et de manière légitime, on estime être notre liberté. Mais cette liberté, si on veut vivre une vie consacrée, on doit la mettre à son service. On doit tout mettre à son service. Si on dit que nous ne nous appartenons plus, ça veut dire que nous appartenons au Seigneur. Et la conséquence naturelle, logique, c'est qu'on doit glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits, comme dit le texte, parce que nous ne nous appartenons plus. Et ce n'est pas juste, quand on parle de notre corps et notre esprit, ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste psychologique, c'est toute notre personne. C'est tout ce que nous sommes. Et donc, je disais que le Seigneur a des droits sur nous. En fait, il a des droits parce qu'il a payé le prix fort. Et le droit qu'il a acquis par la rédemption, par le salut à la croix, nous, c'est cet amour qui nous contraint, qui nous oblige, qui nous presse à le servir, à nous donner au Seigneur. Et la consécration, c'est peut-être encore plus que ça. Qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'appartenir au Seigneur, que de lui donner notre vie, que d'être pressé par son amour, comme on vient de dire? C'est pas juste d'être éperdu de reconnaissance ou de gratitude, ou de comprendre que, oui, effectivement, puisqu'on appartient au Seigneur et qu'il nous a rachetés, il a des droits sur notre vie et qu'on doit la mettre en règle. Mais il y a encore une étape à franchir. Cette étape, c'est si on veut être vraiment consacré à Dieu, eh bien, on doit laisser de côté tout ce qui n'est pas important. On doit se séparer de tout ce qui ne le glorifie pas dans notre vie. On doit faire le ménage. On doit s'alléger. Si l'amour de Dieu nous presse, si c'est vraiment une contrainte puissante dans notre vie, eh bien, toutes les autres contraintes doivent s'évanouir, doivent être évacuées. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, nous dit Jésus. Il faut abandonner ce qui n'est pas utile ou ce qui prend la place de Dieu ou de notre amour pour Dieu dans nos vies, ce qui nous empêche de le servir avec joie. Ça peut être plein d'exemples. Je pense que ce matin, on en a eu plusieurs exemples. L'important, c'est la manière dont on réagit envers le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on vit par et pour le Seigneur. Et c'est ça, la consécration. C'est être mis à part pour le service du Seigneur. C'est entendre l'appel à servir Dieu. C'est dire au Seigneur, d'accord, aujourd'hui, je me sépare de tout pour te servir, parce que tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as sauvé, parce que tu as payé de ta vie pour sauver la mienne. Et si vous regardez donc dans la parole, qui est consacré à Dieu? Eh bien, dès le livre de l'Exode, au chapitre 28, on voit que Dieu met à part des personnes précises pour être à son service. C'est toute l'instauration de la classe sacerdotale avec Aaron. Et on voit ça dans Exode 28 au verset 1, où Dieu dit « Fais approcher de toi Aaron ». Ce n'est pas quelqu'un au hasard, c'est Aaron précisément. Ton frère, et il précise à Moïse au cas où il n'aurait pas compris, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements consacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Et en fait, quand on lit ces passages, et il y en a de nombreux autres, parce que le livre de l'Exode, comme le Lévitique, va vraiment mettre en place tout ce qui est du culte que Dieu voulait que son peuple lui rende. Mais quand on lit tous ces passages, on voit que la consécration, c'était vraiment quelque chose de très important dans le peuple. C'était vraiment quelque chose de précis. Ça impliquait un mode de vie, ça impliquait même une tenue vestimentaire à part, pour marquer sa dignité, c'est marqué dans le texte. Et c'est une dignité. C'est vraiment être mis à part pour le service, le culte de Dieu. Donc c'est une personne précise, Aaron, sa famille, mais c'est aussi tout le peuple d'Israël qui devient une nation choisie par Dieu, une nation consacrée. Et ça, on le voit aussi dans Exode 19, au verset 5. Et Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, » j'aime bien les « si » de Dieu, les conditions. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, dit Dieu. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la consécration, ça concerne une personne, ça concerne une nation, ça concerne en fait tous ceux qui sont au Seigneur, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui gardent la nouvelle alliance que Jésus propose. On est tous membres de cette nation. Au début, le service de Dieu était réservé à des prêtres, à des sacrificateurs qui devaient accomplir des rites. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sauvés par la grâce du Christ sont consacrés au Seigneur, sont ses sacrificateurs. Et on voit ça dans Apocalypse, au chapitre 1, où on nous dit, on nous parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Eh bien, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Dieu nous a choisis pour être les sacrificateurs. Ça peut sembler presque mystique, ça peut sembler excessif. En réalité, il faut bien comprendre que Dieu nous appelle à lui rendre toute la gloire, tout le culte, toute l'adoration qu'il demandait aux prêtres de son peuple dans l'Ancien Testament. Mais pas sous une forme rituelle, pas avec des sacrifices d'animaux, pas avec des liturgies, mais vraiment avec une sincérité, une vérité à toute épreuve. C'est marqué que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est quand on est dans cette disposition d'esprit, quand on veut vraiment tout consacrer au Seigneur, eh bien qu'on peut vivre une vie de consécration. Et on ne se consacre pas à Dieu parce qu'on l'a choisi. Vous savez, comme quand on entre en religion, c'est un choix de la personne, et puis c'est tout l'inverse. C'est Dieu qui nous choisit, chacun d'entre nous, qui allait nous chercher là où nous étions, alors qu'on ne le connaissait pas, alors qu'on était dans l'ignorance, voire même dans la rébellion, et qui nous a amenés à lui, et qui nous a pardonnés et réconciliés avec lui. Et seulement après, on peut être consacré à lui en retour. Donc ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu, ce n'est pas une courtoisie, enfin une politesse ou quelque chose de méritoire. C'est vraiment se donner à Dieu pour accomplir son œuvre, par reconnaissance. C'est lui, le Seigneur, qui, dans sa grâce, nous accorde le privilège de participer à une partie de son œuvre. Et j'ajoute qu'il équipe ceux qu'il appelle pour accomplir ce à quoi il les appelle. Donc, pas de quoi se glorifier de nos mérites, pas de quoi se glorifier de notre spiritualité. C'est dans Jérémie 9, 23 qu'on nous dit: si on veut se glorifier de quoi que ce soit, eh bien cela ne doit être de rien d'autre que de notre Seigneur. C'est marqué que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et c'est vraiment lorsqu'on prend plaisir à ce à quoi Dieu prend plaisir qu'on a une vie consacrée. Alors c'est vrai que on pourrait dire, je vais tout sacrifier au Seigneur. Mais en fait, lorsqu'on est dans cette attitude, lorsqu'on veut avoir une vie consacrée, eh bien, ce n'est pas un sacrifice. C'est pas, il n'y a pas de flagellation, il n'y a pas de souffrance. C'est vraiment une joie de servir le Seigneur. C'est vraiment la joie de lui rendre gloire et de vraiment exprimer toute notre gratitude. Et c'est un peu, à mon avis, ce que veut dire l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1, quand il nous dit « Je vous exhorte, je vous encourage, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez, il passe de sacrifice vivant, de notre vie en quelque sorte, à un culte raisonnable. Devant le Seigneur, on n'a vraiment qu'un seul chemin. Si souvent on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu, quels sont les plans de Dieu, c'est vrai qu'on ignore par où il veut nous faire passer. Mais on sait quel but il veut, quel sens à notre vie. C'est de glorifier et de servir Dieu. Il n'y a pas d'autre option, pas d'autre possibilité. Et si on veut vraiment le servir, si on veut être consacré, eh bien on doit se présenter à lui comme un sacrifice. Toute notre personne, toute notre vie. Là on parle du corps, mais c'est tout notre être entier qui doit être à lui. Plus on sera rempli de Christ, plus on le glorifiera dans notre vie, plus on parlera de lui. Et plus on verra de l'extérieur Christ à travers nous. Et c'est ça la consécration, c'est cette espèce de transparence de notre personne à l'action du Saint-Esprit. Et à mon avis, c'est lorsqu'on est rempli, presque saturé de l'image de Christ en nous, qu'on plaît au Seigneur, qu'on fait ce qu'il veut pour nous dans notre vie. La consécration, ça implique, je disais tout à l'heure, qu'on soit touché par l'amour de Dieu et qu'on touche cet amour, qu'on l'expérimente, qu'on reconnaisse qu'il est notre Seigneur et notre Maître. Mais je pense qu'on a notre part à faire, dans le sens où on doit vraiment désirer, on doit vraiment venir devant Dieu et lui dire « me voilà à ton service ». On doit vraiment le supplier de nous accorder le privilège de le servir. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas réservé aux super spirituels, ce n'est pas réservé aux responsables, c'est chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont vraiment sauvés, tous ceux qui ont vraiment donné leur cœur sincèrement au Seigneur, qui se sont repentis et qui vivent cet amour, sont appelés à être consacrés et à le servir. Le but de la consécration, ce n'est pas de devenir un grand prédicateur, ni quelqu'un de super spirituel, ni d'accomplir quoi que ce soit pour le Seigneur. Le but de la consécration, c'est de le servir. Le résultat de la consécration, c'est le service. Et être au service de quelqu'un, ça peut être compliqué. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident. Être au service de Dieu signifie eh bien, qu'on doit aller où il veut qu'on aille, qu'on doit agir comme il veut qu'on agisse, qu'on doit être présent quand il veut qu'on soit présent, qu'on parle quand il veut qu'on parle et qu'on se taise quand il le veut. Il faut vraiment une obéissance, une écoute, il faut être attentif à ce que veut le Seigneur d'une manière absolue. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet exemple dans les évangiles, dans Matthieu 8, du centurion qui vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Et on a l'impression que Jésus hésite ou ne répond pas tout de suite. Et pour justifier sa démarche, le centurion lui dit « Moi, en tant que chef militaire romain, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. » Et ça, c'est le verset 9. « Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fait ceci, et il le fait. » Et le texte nous dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, même dans le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et pourquoi, à votre avis, le centurion éprouve le besoin de se justifier devant le Seigneur, d'expliquer sa démarche? Eh bien, on voit ça au verset 8, juste avant le passage que je viens de lire. Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et je pense que Jésus, quand on parle d'étonnement, en fait, Jésus est même admiratif qu'un païen, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ait compris cette profonde réalité spirituelle. Parfois, il faut oser supplier le Seigneur et lui dire de dire juste une parole, un mot, qui guérit, qui délivre et qui sauve. Et on doit vraiment avoir cette même obéissance envers le Seigneur que les soldats envers leur centurion. C'est le Seigneur qui décide, c'est lui le maître. Si on l'appelle notre Seigneur et notre maître, il faut être un peu cohérent. C'est lui le maître, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Et c'est tout ça que ça signifie, être au service de Dieu. Dieu nous demande à tous de lui offrir notre corps, notre vie, pour le servir. Il ne nous demande pas nécessairement à tous de prêcher en public ou d'évangéliser dans une terre lointaine, ni de faire de grands sacrifices héroïques, mais il nous demande à tous d'être à son service, et comme lui veut que nous le servions. Si Dieu envoie quelqu'un prêcher, cette personne n'a pas d'autre choix que de parler. Moi, j'ai connu quelqu'un qui prêchait donc dans l'église de Charleville et qui souffrait vraiment de bégaiement, qui ne pouvait pas contrôler son bégaiement dès qu'il était un peu stressé. Et quel stress que de prêcher. Et pourtant, quelle prédication, quelle belle prédication il faisait. Et son bégaiement, vraiment, était quasiment effacé parce qu'il se mettait au service du Seigneur. Quoi que le Seigneur nous demande de faire, parce que nous avons envie de faire, pas la manière dont nous avons envie que ça se passe, mais comme lui le veut, eh bien, on doit le faire. Si le Seigneur veut, ou met à cœur d'une personne de tout quitter pour lui, elle doit le faire. Je ne dis pas que chacun doit le faire, mais il faut être sensible à ce que Dieu veut pour nous. Sinon, on passe à côté des plans que Dieu a formés pour nous. Et ça, c'est strictement personnel. C'est un appel strictement personnel pour chacun. C'est entre chacun d'entre nous et Dieu. Si on veut être vraiment consacré, si on veut vraiment porter le nom, l'étiquette, le label de disciple, eh bien on doit servir Dieu toute notre vie, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Dès qu'une personne se consacre, elle doit réaliser qu'à partir de ce moment, la volonté du Seigneur passe en premier dans sa vie. Servir Dieu devient la mission de toute notre vie. Alors, j'encourage pas à ne pas être sérieux, à ne pas être consciencieux dans notre travail, à être oisif sous prétexte de spiritualité. Ça s'est déjà vu. Hein. Des personnes qui, sous prétexte de servir Dieu, ne faisaient rien. C'est pas du tout ça. On doit être responsable, on doit être raisonnable. Mais devant Dieu, on doit affirmer et accepter que notre vie tout entière soit dirigée vers son service. On doit tout faire dans le but d'obéir à la volonté de Dieu et de lui plaire. C'est ça la consécration. Et ça, c'est vraiment comme chacun aura à cœur, parce que le Seigneur lui mettra à cœur. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vraiment une disposition de cœur totalement dévouée au service du Seigneur. Et c'est une joie. Parce que c'est vraiment un privilège. C'est un peu comme on le disait tout à l'heure, la peur de tout ce que l'ennemi pourrait faire, mais c'est rien en comparaison de tout ce que le Seigneur fait, de tout ce qu'il peut faire dans notre vie, de tout ce qu'il nous met devant nous. C'est vraiment la terre promise. C'est vraiment une terre où ruisselle le lait et le miel, alors que le peuple d'Israël était dans le désert. Eh bien, c'est exactement la même chose dans nos vies. Si on prend le parti, si on fait le choix d'être consacré au Seigneur, de lui donner notre vie comme un culte raisonnable, comme nous disait le texte, eh bien là, on entre dans cette terre promise. Et les bénédictions et les promesses de Dieu valent bien plus que tout ce qu'on pourrait perdre, sacrifier, ou que tous les combats qu'on pourrait supporter. Et je trouve aussi que si on aborde le sujet de la consécration, si on se pose la question des consécrations, eh bien je crois qu'il y a une petite question corollaire. C'est en quel Dieu on croit ? Est-ce que le Dieu en quel on croit, c'est un Dieu qui fait ce qu'il peut, un Dieu limité, bien gentil, ou est-ce que c'est le Dieu tout-puissant ? Est-ce que c'est notre Seigneur ? Est-ce que c'est notre Maître ? Est-ce que c'est celui qui peut infiniment plus que tout ce que nous, on peut imaginer et espérer ? Et je crois que c'est seulement quand on réalise cette grandeur, la grandeur du Seigneur, sa sainteté, son amour, qu'on réalise à quel point c'est un privilège d'être son disciple, à quel point c'est un privilège de lui être consacré. Alors je pense que lors de cette année à venir, j'ai parlé de l'année précédente, c'est super, mais lors de cette année à venir, je pense que tous ceux qui voudront le servir par reconnaissance, pour le glorifier, tous ceux qui veulent être consacrés au Seigneur, eh bien auront l'occasion de le faire. Le Seigneur met vraiment devant nous cette terre promise, tout ce qu'il a prévu, tous les plans qu'il a prévus pour chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Et dans cette terre promise, tous ceux qui ont vraiment à cœur de se lever pour le servir auront le privilège de rentrer en marchant, en avançant, en combattant par la puissance du Saint-Esprit dans les voies qu'il a préparées d'avance. Et ça, c'est vraiment une perspective exaltante que je suis à la fois personnellement impatient et curieux, comme je disais au début, de voir se réaliser. Parce que Dieu est plein de surprises. Je ne sais pas si vous avez pu l'expérimenter. Eh bien, vous allez le voir. Je vous propose de prier. Qui veut prier se sente libre pour terminer ce culte. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous fais le privilège de pouvoir te suivre. Merci parce que tu donnes le désir de te servir à tous ceux qui se lèvent pour toi. Merci parce que tu équipes et tu formes ceux que tu appelles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu mets devant nous. Et nous voulons vraiment, Seigneur, exprimer toute notre reconnaissance, tout notre désir de te servir, Seigneur, d'être consacré à ton service, afin de pouvoir te glorifier dans nos vies et tout autour de nous, Seigneur. Amen. Je vais faire quelques annonces. Enfin, quelques annonces. Les annonces, tout simplement. Donc, demain lundi à 14h.